Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi. Cette deuxième heure commence, comme chaque jour, par l'Info Éco. Et ce matin, c'est avec Marjorie Adelson.
BFM Business. L'Info Éco.
À la une sur BFM Business, une victoire contre l'inflation. Une centaine de produits de supermarchés vont baisser dès le mois de juillet. Les grands industriels de l'agroalimentaire se sont engagés auprès de Bruno Le Maire lors d'une réunion hier. On écoute le ministre de l'économie qui annonce notamment des sanctions en cas de non-respect.
Et après, j'ai deux possibilités. La première, c'est de nommer les entreprises qui n'auraient pas jouer le jeu. Et la deuxième, que je conserve, c'est la possibilité de mettre en place une taxe sur les marges excessives qu'auraient faites les entreprises de l'agroalimentaire.
Une taxe de combien ? Vous avez commencé à dessiner un peu les contours de cette taxe exceptionnelle.
L'instrument juridique est prêt, que l'instrument juridique a été validé par la direction des affaires juridiques de mon ministère, qu'elle a été présentée aux industriels de l'agroalimentaire, donc ils savent parfaitement à quoi s'attendre.
Et dans la grande distribution, toujours le suspense autour de la reprise du groupe Casino se poursuit avec un nouveau rebondissement. Le groupe Teract et sa maison mère Invivo se retirent du rapprochement pour lequel ils étaient en discussion depuis le mois de mars. Reste en lice d'un côté le trio constitué par Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moïse Alexandre Zoari. Et de l'autre, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Le groupe Teract a annoncé que malgré son retrait dans la reprise, il ne s'opposait pas à un éventuel partenariat. Au chapitre des reprises, toujours, c'est aujourd'hui que se décide l'avenir de la Grande Récré. Le tribunal de commerce de Paris doit prendre sa décision sur l'enseigne détenue par Michel Ohayon. C'est son concurrent, Jouet Club, qui a de grandes chances de l'emporter. L'offre vise à reprendre la quasi-totalité des magasins et des salariés. La Grande Récré compte actuellement 140 magasins et plus de 1000 salariés en incluant les franchises. Dans l'actualité également aujourd'hui, le nucléaire, booster la formation au métier du nucléaire, c'est l'objectif du gouvernement. Trois ministres, dont la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, sont attendus ce matin en Normandie pour des annonces. Le gouvernement souhaite investir 42 millions d'euros pour des formations allant de Bac-3 à Bac+8. L'objectif est double, pallier le déficit d'attractivité de la filière, mais aussi sécuriser les 100 000 recrutements dont la France aura besoin dans les 10 prochaines années. Le gouvernement souhaite également prendre des mesures pour favoriser l'inclusion en lien avec Pôle emploi. En France, toujours, nouvelle étape pour Edenred. La maison mère des tickets restaurants va rentrer au CAC 40 le 16 juin prochain, après la clôture. Edenred rentrera directement à la 32e place des 40 entreprises phares de la côte parisienne, Cédric.
Merci beaucoup, Marjorie Adelson, chaque heure, pour vivre au rythme de cette actualité économique. Et nous, tout de suite, on file sur les marchés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Il rejoint la salle de marché d'Odo BHF où nous attend Michaël Jacobi. Bonjour Michaël.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on se dit sur ce marché qui ne semble pas vouloir choisir entre la hausse et la baisse ?
Alors effectivement, on est assez anémique, hein, qu'il s'agisse des variations sur les cours. On est juste à l'équilibre. Alors on était légèrement en dessous. Là, on est justement légèrement au-dessus. On est avec des volumes qui sont très faibles et ça depuis quelques jours. Alors on est clairement attentiste sur les décisions de la semaine prochaine des banques centrales et notamment de la Fed. On a des signaux qui sont effectivement un peu en demi-teinte, hein, sur l'économie avec une récession annoncée sur la zone euro hier qui donne effectivement probablement un peu d'espoir à ce que les banques centrales arrêtent un tout petit peu la hausse des taux et que fassent une petite pause. On est néanmoins dans un attentisme clairement affiché et avec des nouvelles sur les sociétés fondamentales qui sont relativement peu nombreuses.
Voilà donc pour le sentiment général. Après, il y a quelques dossiers, et puis on en parlait à l'instant, Vivendi, Edenred.
Oui, alors l'entrée d'Eden Red dans le CAC 40 qui a été annoncé aujourd'hui, qui sera effectif le 19 juin, était relativement attendue. Donc c'était le candidat favori. Eden Red aujourd'hui est clairement acheté. On est à 1,30 dans le territoire positif aujourd'hui pour Eden Red. La surprise, ce sera plutôt la sortie de Vivendi du CAC. Hein. Les autres noms qui circulaient étaient plutôt Unibail, Redamco, Téléperformance. Mais effectivement, l'annonce que Vivendi sortira est assez surprenante. Et aujourd'hui, celle-ci se fait effectivement assez fortement vendre et performe à moins 1,5% clairement dans le rouge.
Et puis un petit mot de Dassault Systèmes qui est dans le rouge également.
Alors Dassault Systèmes aujourd'hui tiendra son CMD à 13h. On attend pas mal de choses, pas mal de clarifications. Alors on a une passation donc du management. Le député CEO deviendra CEO à partir du 1er janvier 2024 pour remplacer Bernard Charles, donc il va être remplacé donc par Pascal Dalloz. On est face à des annonces assez grandes, hein, les BPA sur 5 ans. Qui devront être à 2,2 et 2,4 euros soit grâce à la croissance interne et aux acquisitions, nécessitera clairement un peu plus d'informations dans le détail, et c'est probablement à ce stade-là que le marché est un tout petit peu fébrile face à la Dassault Systèmes qui performe clairement en territoire négatif. Alors probablement à partir de 13h on pourra attendre un petit retournement si effectivement le management réussit à calmer et rassurer le marché. En tous les cas, c'est un titre qu'il faut garder clairement en tête.
Merci beaucoup Mickaël pour ces quelques observations. Mickaël Jacobi depuis Odo BHF. Très bonne fin de séance et de semaine sur le marché. Un marché qui reprend quelques couleurs. Plus 0,14, 7232 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Sandrine Covin et Daniel Gérino sont en plateau. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Cédric.
Sandrine pour OTA Capital, Daniel pour Carlton Sélection. D'abord, votre sentiment sur deux événements totalement séparés, mais qui ont eu un peu le même déroulé. Je parle du plafond de la dette américaine et de la note française. Avant, tout le monde en a parlé, tout le monde était focalisé, avait son avis dessus. Et puis juste après, tout le monde a dit, moi, il n'y avait aucun enjeu. Comment est-ce que vous vivez cette espèce de mimétisme? Et ça n'a rien à voir, hein, les deux. Mais...
Oui, oui. Je commence.
Allez-y.
Ce qui s'est passé, c'est que sur le plafond de la dette américaine, c'était la 78e ou je ne sais plus combienième fois qu'on avait ce scénario où à chaque fois, c'est des coups de pression, on démocrate, républicain, puis chacun, il y a de l'électoralisme, on va dire, donc il se positionne et on tire jusqu'au bout, mais on sait qu'au final, ça rend service à personne de mettre l'Amérique en défaut. Et qu'ils allaient trouver un arrangement. Donc, quelque part, il y a eu du buzz. Ouais.
On a aimé le commenter, voilà.
C'était quand même, entre guillemets, un non-event. Et j'ai envie de dire que pour la notation de la France, c'est un peu pareil, parce qu'on a quand même une bonne note, hein, investment grade bien positionnée.
Et que même si on avait perdu
perdu, alors bon, ça aurait peut-être... Au niveau politique, peut-être que pour le gouvernement, ça aurait été problématique, parce qu'ils ont quand même tenu bon sur la réforme des retraites. C'était aussi un enjeu, hein, le président l'avait dit. Donc ça, c'est quand même, je dirais... Mais pour les marchés, nous, on ne voyait pas trop d'impact.
Daniel, vous partagez cette lecture ?
Partiellement, sur le plafond de la dette. Alors oui, c'est l'exercice chaque année, on refait la même chose. J'ai eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. Pour moi, c'est un non-even, si ce n'est que ça devient intéressant, puisque chaque parti arrive à faire son petit marchandage avec l'autre. Les démocrates demandent un petit peu plus de baisse d'impôts pour les couches inférieures de la population, celles qui ont le moins de revenus. Les républicains demandent à ce que les impôts soient pas... renchérit pour la classe la plus élevée. Donc, ça fait partie du jeu quotidien. Bien évidemment, les Américains ne vont pas s'amuser à se tirer une balle dans le pied. Une année, on a eu cela, où effectivement, ça a été très très compliqué. Il y a eu une sorte de véritable shutdown, c'est-à-dire que les fonctionnaires n'étaient plus payés. Oui. On a vu les conséquences que ça a pu avoir par la suite sur les taux d'intérêt aux États-Unis. Je pense qu'ils vont plus s'amuser à refaire cet exercice. Par contre, le petit jeu reste toujours intéressant, puisque c'est l'occasion de faire un petit marchandage. Concernant la dette française, je pense que c'est un petit peu différent. Moi, je vois que quand même, c'est pas si neutre que cela. puisque la première dégradation qui a eu lieu n'a pas donné sur S&P lieu à une deuxième dégradation. Mais quand même, globalement, le bilan de la France, même si, comme vous le dites très bien, elle a tout pour réussir, malheureusement, elle ne réussit pas tout le temps. Et quand on regarde le déficit commercial, il n'est pas bon. Le solde primaire, il n'est pas bon. La balance des paiements courants n'est pas bonne. La productivité est très mauvaise. Et on a un tiers des dépenses publiques qui sont liées à l'inflation, les retraites, les pensions et un certain nombre de prestations sociales. Donc globalement, moi je pense que s'il y a un pays qui n'est pas très très bien positionné en Europe, c'est la France. Et l'Italie m'inspire plus confiance parce qu'il y a un solde extérieur qui est extrêmement positif, un solde primaire qui est extrêmement positif. Par contre, il y a la charge de la dette. 3% embarqué, 145% ratio dette sur PIB. Donc vous voyez que la dégradation de la note française pour un pays qui dépend en grande partie des capitaux extérieurs, c'est-à-dire qu'on ne peut plus subventionner intégralement nos dépenses. On a besoin des capitaux extérieurs. Dégrader la note, c'est pas bon. Et S&P a laissé un outlook négatif.
Bien sûr, oui, une perspective négative sur...
Donc, dégradation, le prochain.
Et on rappelle que tous les autres, voilà, en fait, c'est un cercle. Bon, donc, malgré tout, tout ça est passé. Est-ce qu'il y a d'autres risques que vous pointez du doigt, enfin, que vous avez vraiment inscrit dans votre scope, en vous disant, bon, ben voilà, ça, ok, on n'en parle plus pour le moment, mais il y a tel et tel point sur lequel, moi, j'ai envie d'être attentive.
Oui, je pense que nous, là où on reste un petit peu attentif, c'est du côté des États-Unis, au niveau du système bancaire, parce que il y a quand même eu ce phénomène-là qu'il y avait eu avec SVB et d'autres.
Et on voit que la Fed craint une contraction plus large du crédit.
Donc, faudrait quand même surveiller que de ce côté-là, il n'y a pas de nouveaux cas, parce que on en avait déjà parlé, c'est quand même un financement important de l'économie américaine, les petites entreprises. Donc ça, c'est quand même à surveiller. Et après, est-ce qu'on va avoir un ralentissement plus fort? Là, je pense qu'on est dans une période où il faut surveiller. Il y a une inertie entre le moment où il y a des hausses de taux et comment ça, après, ça se diffuse à l'économie. On commence quand même à voir que il y a des choses qui se transmettent. Là, il y avait des gens de l'immobilier sur votre plateau juste avant nous. Clairement, l'immobilier, c'est un sujet et il faudra surveiller qu'effectivement, il n'y ait pas... La grande question aujourd'hui, c'est de savoir si le consommateur va être résilient. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, c'est quand même ce qui fait la tenue de l'économie aujourd'hui, avec notamment l'épargne post-Covid, hein, qui est toujours là. Donc, il y a une bonne résistance, mais est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il pourrait y avoir un... Mais on ne croit quand même pas au scénario de la catastrophe avec récession dure. On ne croit pas ça.
Et vous, Daniel, quel... point vous avez dans votre scénario qui éventuellement vous inquiète ou tout cas que vous avez mis sous surveillance?
C'est une excellente question. Si on a une petite heure,
oui, allons-y, installons-nous. Non, déjà, les gens de Limo voulaient me bouffer la deuxième heure.
Non, là, il y a quand même plein de points d'interrogation. Moi, je pense qu'on a globalement plutôt bien passé ces situations très difficiles, que ce soit 2008, que ce soit 2020, que ce soit 2022. Mais tout ça se fait à un coût. Le coût, c'est la dette. Donc là, il faudra vraiment surveiller le stock de dette qui est colossal, surtout que maintenant, on n'est plus avec des taux négatifs, mais on est encore partiellement en Europe avec des taux réels négatifs, ce qui nous sauve. On a chaque fois un petit pansement, sauf que le bobo, il est là, et il ne se soigne pas, parce que le pansement, ça ne règle rien. Donc, on a plusieurs points d'attention. D'abord, la Chine. Va-t-elle repartir ou pas repartir? Gros point d'interrogation.
Oui, parce que pour le moment, on l'avait quasiment tous acheté.
Exact, nous y compris. Ouais. Et on s'est aperçu qu'en réalité... le moteur ne redémarre pas. Pourquoi ? Parce que les 3 000 milliards d'épargne disponible au niveau des ménages chinois, pour l'instant, ne déclenchent pas. Alors, on n'est pas négatif. Moi, je pense que sur une période de 1 an, 2 ans, ça va être un très bon support d'investissement parce que ça va finir par déclencher. Pour l'instant, les Chinois ont beaucoup de mal à dépenser. Il y a des redémarrages, hein, on l'a vu, les indices de mobilité repartent, les transports, que ce soit maritime ou aviation, ça a explosé littéralement, donc c'est quand même des signes positifs. Mais ça ne s'est pas encore matérialisé concrètement. Alors ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, pour moi, c'est quand même la productivité. La productivité, elle chute. pour l'instant, ce qui peut nous sauver, c'est l'intelligence artificielle. On pense que l'intelligence artificielle va apporter 7% de croissance en plus et 1,5% d'augmentation de la productivité. Si ce chiffre est juste, tant mieux. S'il n'est pas juste, il va falloir savoir où on va trouver la productivité. Regardez les États-Unis, l'Europe, vous avez les salaires qui montent, la productivité qui baisse. Ça crée un gap. Ça tue l'économie. Donc ça, c'est un autre sujet. Et de fait, la rapidité avec laquelle l'inflation va baisser, et donc les taux vont baisser, tout ça rendra ou pas soutenable le stock de dette que nous détenons. C'est considérable. On a 300% du PIB mondial en dette, que ce soit privé ou public. Ouais. C'est pas rien.
Bon, voilà des quelques idées à avoir en tête. Vous n'avez pas du tout parlé de banque centrale, ou presque. Et pourtant, on commence à entendre certains... Alors, on sait qu'il nous reste peut-être quoi, une hausse sur la Fed, peut-être deux, ou un tout petit peu plus sur la BCE. Mais on a quelques observateurs, et ça a été le cas sur ce plateau au cours des derniers jours, qui disent, bah, une ou deux, enfin bon, d'accord, mais... Et si c'était la une ou la deux de trop? Et si finalement il y avait une erreur de politique monétaire? Est-ce que c'est quelque chose, vous, Sandrine, qui résonne un peu chez vous, qui vous préoccupe de vous dire, bon, bah, effectivement, pour le moment, la pente a été rude, mais l'économie a réussi à encaisser le choc, même s'il y a une idée d'un trimestre par-ci, d'un trimestre par-là, où on pourrait être moins fringant, mais en clair, il n'y a pas eu d'erreur.
Non.
Et là,
alors, il n'y a pas eu d'erreur, si ce n'est que l'erreur a été au niveau du timing. Ils ont traîné au départ.
D'accord.
Ils ont nié c'est conjoncturel, ça va pas durer. Donc, ils ont eu, et la BCE encore pire que la Fed, ils ont vraiment eu un temps de retard. Donc aujourd'hui, et donc du coup derrière, ils y sont allés à marche forcée. Donc ça s'est fait effectivement très très rapidement. Maintenant, moi c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est important. De voir après toutes ces hausses et maintenant les taux qu'on a, le niveau de taux qu'on a atteint, comment ça, je pense que ça serait intéressant d'avoir une pause pour voir justement comment tout ça retombe avant de toute façon 25 BP, ouais, c'est pas ça qui va, mais par contre en termes de sentiment pour les investisseurs, je suis pas sûre que ça soit bien pris, donc vaudrait mieux faire une pause, voir comment ça se passe, surtout que ça vous aura pas échappé qu'en Europe on n'a pas du tout la même situation économique qu'aux États-Unis. On est en récession technique, donc on parlait de l'Allemagne, mais il y a la récession technique aussi en Europe, donc c'est peut-être quand même un peu dangereux d'aller encore trop loin sur les hausses de taux. Nous on pense que c'est le moment de faire une pause pour voir et peut-être remettre un coup s'il faut.
Daniel, alors, vous redoutez, vous, qu'on finisse par une erreur?
Non, parce que...
Qu'on ait la hausse de trop?
Oui, ça ne changera pas grand-chose, qu'il y ait 25 points de base de plus ou de moins. Le problème, c'est très compliqué, quand même. Effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Sandrine à propos du timing. Ils se sont un peu trompés dans le timing. Bon, c'est toujours plus facile de dire après qu'avant.
Oui.
Et on n'est pas à leur place, c'est compliqué, c'est difficile à gérer.
Vous n'êtes pas candidat,
non? Non, pas vraiment, et j'en ai pas les capacités du tout. Donc, il faut quand même voir aussi une chose, c'est que aujourd'hui, on est dans une situation où l'inflation centrale, l'inflation core, elle est autour de 5,5% et elle ne baisse pas beaucoup. Par contre, l'inflation totale, elle baisse fortement, elle est en dessous, elle va continuer. Parce que quand on va se rapprocher du mois de septembre, on va avoir l'impact de l'énergie qui va jouer, mais alors très négativement dans le taux global d'inflation. Mais que peut faire la banque centrale dans une situation comme ça? Elle sait qu'elle a environ 12 à 13 mois d'attente entre le moment où elle déclenche sa politique de hausse de taux et les effets ressentis dans l'économie. Et là, on va simplement commencer à rentrer dans cette zone. Donc, elle ne peut pas non plus se payer le luxe de dire « j'arrête la remontée des taux d'intérêt alors que j'ai une inflation globale qui est supérieure à celle des États-Unis. On a un point de plus qu'aux États-Unis sur l'inflation globale. Donc, elle va donner deux petits coups de plus. Sauf qu'il y a des effets induits indirects. C'est comme les médicaments, il y a les effets secondaires. C'est quoi les effets secondaires? C'est tout simplement que, pour baisser l'inflation, on monte les taux, on retire de la masse monétaire, la base monétaire, pour faire en sorte que la demande diminue. Sauf qu'il y a un petit problème, ça attaque aussi l'offre. Et quand ça attaque l'offre, c'est exactement ce qui s'est passé en 2001. C'est exactement ce qui s'est passé en 2016. C'est les deux périodes où il y a eu une hausse de taux. Vous regardez l'offre, elle a chuté. Et elle a chuté assez fortement. Moins que la demande, mais elle a chuté. Ce qui veut dire que, en ayant cette politique de hausse de taux qu'on a mis en place, il faut s'attendre à une croissance potentielle qui va baisser. Si la croissance potentielle baisse et que la productivité baisse, on n'a plus qu'à faire des enfants. Puisque c'est la dernière variable qui fait que la croissance augmente, c'est l'augmentation de la population et de la productivité. Donc, vous voyez, c'est très très compliqué. Mais je pense qu'on va avoir deux hausses de taux sur la BCE. Aux États-Unis, je pense que le match est terminé. Là, maintenant, ils vont attendre de voir quels sont les effets.
Pourtant, certains ont dit, s'ils ne font pas 25 cette fois-ci, il faudra faire 50 la prochaine fois.
Alors, on verra. On verra. Moi, je pense que, pour l'instant, les indicateurs vont plutôt dans le bon sens. Surtout qu'aux États-Unis, on sent quand même un très fort ralentissement au niveau du secteur manufacturier et un petit peu au niveau des services aussi. Donc, il y a quand même un atterrissage qui est plus marqué aux États-Unis qu'il ne l'est en Europe.
Bon.
Il y a 93%, mais il y a 93% des CFO qui prévoient une récession aux États-Unis. Donc, c'est quand même, on sent effectivement qu'il y a, quelque chose.
Juste peut-être un point, on est en récession technique en Europe, mais hors stock, on n'est pas en récession technique.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui.
C'est -0,1, -0,1, c'est ça. Pas non plus.
C'est pour ça que je disais, il y a un trimestre parfois. Un petit mot aussi de nos marchés et de la structure du marché. Voilà plusieurs jours qu'on en parle sur l'antenne. Goldman Sachs, qui aime bien les acronymes, nous a créé Tara après avoir enterré Tina. On rappelle, c'était There is no alternative. Et Tara, c'est donc il y a des alternatives raisonnables. Je vous passe mon accent anglais parce que les rendements obligataires retrouvent de l'intérêt et donc ce qu'on appelait les passagers clandestins qui avaient embarqué dans les marchés actions pour de mauvaises raisons, on va mettre des guillemets, ont pris le large. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette normalisation, on va dire, du marché, finalement? C'est bien que chaque classe d'actifs trouve
Disons que là, il y a
son investisseur.
Pour un investisseur, il y a de quoi faire ses courses, il y a de la diversité. C'est vrai que l'obligataire, quand les taux étaient bas, c'était pas intéressant. Mais maintenant, s'intéresser, quand on voit les obligations d'État, les rendements proposés, qui sont souvent supérieurs même au plan, je pense au livret A ou au compte rémunéré, fonds euro, donc ça permet d'aller mettre une partie de son épargne là-dedans. Après, sur les marchés actions, il reste encore des opportunités parce que il y a eu la folie luxe, maintenant c'est la folie tech, et surtout quand vous mettez IA dans votre business, là, tout de suite il y a de l'excitation. Donc on a bien vu que la tech est repartie fort, mais il y a d'autres.
Après les dot-com,
Mais il y a d'autres secteurs aujourd'hui, et je pense notamment à. Alors, c'est pas un secteur, mais c'est un segment, c'est les small et mid-cap. Nous, ça fait un petit moment qu'on pense que c'est intéressant de revenir, parce que c'est des niveaux de valorisation qui sont vraiment faibles, surtout au regard de la croissance que ces sociétés, quand vous prenez le panier de ces sociétés, vous avez une croissance bien supérieure à 10 ans que les grosses.
Sous-performance depuis plusieurs années maintenant, des mid-cap, elle était notamment due à ces passagers clandestins, non, qui embarquaient via les ETF, les paniers. Et c'est sûr que quand vous êtes obligé de coller un indice, vous n'allez pas prendre des titres sur lesquels vous ne pouvez pas être liquide.
Et après, il y a aussi beaucoup de cash qui n'est pas dans le marché. Donc, voir aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient vu que le marché était parti très rapidement depuis le début de l'année, et puis ils ont raté la hausse. Et là, maintenant, ils se disent peut-être que finalement il n'y a pas tant de mauvaises nouvelles que ça, on pourrait terminer l'année, alors je ne veux pas donner de niveau de CAC ou autre, mais on pourrait terminer l'année et finalement il y aurait des choses à faire. Et quand on regarde effectivement des valorisations qui sont devenues quand même stratosphériques sur certaines valeurs, il me semble que les small cap redeviennent, surtout qu'elles continuent d'avoir des discours où elles déroulent leur feuille de route, il n'y a pas de ralentissement, il y a des bonnes marges, donc il n'y a pas de raison que ces sociétés-là ne retrouvent pas les faveurs des investisseurs.
Surtout qu'on a des leaders mondiaux aussi.
Exactement,
il y a
des petites qui sont effectivement en position de leadership. Oui.
Vous aimez Tara?
Ouais, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Hein. Finalement, on est là pour faire de l'allocation d'actifs, pas pour être amoureux d'une classe d'actifs. Donc c'est plutôt bien. Les obligations aujourd'hui, ça paye, mais avec l'inflation, ça paye moins qu'avant. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc on joue en fait le fait que l'inflation va baisser. Et à ce moment-là, c'est vrai que si vous prenez du papier 2026, vous avez du 4% maintenant, pas mal.
Oui.
Fonds d'État, beaucoup moins, mais sur le papier.
On dit beaucoup de l'investment grade en portage, etc. Absolument. Et puis, si on a envie d'un petit peu d'assaisonnement, on prend un peu de high yield, mais sans subordonnée bancaire. Enfin voilà, c'est ça la recette, bonne recette aujourd'hui ?
Pas pour moi. Pas pour moi. Je pense qu'il faut aller sur de l'investment grade exclusivement, sur de la subordonnée bancaire, Crédit Agricole, BPCE, Arkéa, Crédit Mutuel. Il n'y a franchement pas de risque. Il y a des bons rendements, c'est parfait. Le high yield, nous, on n'y met pas les pieds. Parce qu'on pense que le spread n'est pas suffisant et qu'on rentre dans un monde nouveau. Moins d'argent, des taux plus élevés, des difficultés pour des sociétés à se refinancer. Le high yield, c'est quand même des sociétés qui sont moins solide que les autres. Donc pourquoi aller, pour quelques bips de plus, prendre des risques inconsidérés alors que ça paye bien sur de la qualité? Donc nous, on est 100% investment grade. Après, small cap, mid cap et large cap, nous on est large cap. On est exactement comme sur l'obligataire, ça performe bien, il y a de la visibilité, ce sont des sociétés qui ont des capacités à se refinancer, qui ont des free cash flow positifs. Il y a des petites sociétés également, hein. Mais c'est plus fragile, et notamment en termes de financement. Et ce que l'on a constaté, c'est que la bourse a fortement progressé, et notamment sur le Nasdaq, hein, mais même sur le CAC et sur le MIB, etc. On a des résultats boursiers qui sont très bons. Habituellement, dans ces configurations-là, les small mid-cap performent très bien. Et là, rien.
Oui.
Donc ça veut dire quand même qu'il y a un autre problème. Et l'autre problème, à mon avis, c'est plus l'analyse comptable de la société, c'est de se dire, mais finalement, ça attire moins le chaland, dans la mesure où on est quand même sur des sociétés plus fragiles, dans un environnement plus fragile, avec des perspectives de stagnation de l'économie, voire de récession, donc ça fragilise encore plus. On retire de l'argent, l'accès au crédit est plus difficile. Sur les small mid-cap, souvent, elles ont besoin de financement. Avec des taux plus élevés, ça percute les business models. Alors, je ne conteste pas le fait qu'il y ait des très, très belles valeurs. Aux États-Unis, par exemple, oui. Je pense que les small mid-cap, il y a quand même des trucs intéressants.
C'est sympa d'être contrariant aussi, parfois.
Oui, enfin, non, il faut juste suivre ses convictions. Après, il faut les assumer, mais nous, on a ses convictions. D'accord. Il faut être sur la sécurité parce que, alors, dans l'investment grade, des large caps, de la liquidité, des produits très, très liquides, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire de très, très belles performances. On n'a pas besoin d'aller se mettre dans des segments compliqués et peu liquides ou qui sont des segments de mode et de niche.
C'est bon. Plus trop à la mode, hein, les smolémides.
Ben non, justement. Ben non. Plus trop à la mode.
Voilà.
Et pourtant, il y a beaucoup d'interrogations sur est-ce que ça pourrait repartir, est-ce que c'est le moment.
Ouais, et j'insiste, il y a des très très belles valeurs. Ouais, nous aussi, on fait du stock picking. On ne va pas aller évidemment sur. Il y a des très bonnes valeurs aujourd'hui qui génèrent du free cash, qui n'ont pas besoin de financement. Et celles-là, elles ont des niveaux de valo aujourd'hui qui ne nous semblent pas du tout refléter la qualité de leurs fondamentaux.
Merci beaucoup à tous les deux. Sandrine Covin, donc, pour OTA Capital, et Daniel Gérino et Carlton Sélection étaient au cœur de Regards Croisés.
Merci.
À très bientôt. Dans un instant, ce sera technique. C'est un trader. C'est Stéphane Sauduteil qui nous attend.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, c'est la dernière demi-heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi et on file sur les marchés comme à l'entame de chaque demi-heure. Grâce ce matin à Stéphane Sauduteil depuis technibourse.com. Stéphane, le marché qui tente parfois quelque chose reste finalement collé là où on l'a laissé hier soir à la clôture.
Oui, effectivement, les niveaux techniques, on l'a peau dure, hein. On a bien identifié les 7240 points en niveau de résistance depuis lundi après-midi. Et il y a à peine une demi-heure, on s'en est rapproché. Et puis, patatras, on a vite décroché de ce niveau pour revenir vers les 7220 points. Alors, c'est que 20 points de baisse, hein. C'est pas non plus les grandes manœuvres, puisque on reste dans un range d'un tout petit peu plus de 1% depuis lundi après-midi. Donc, c'est excessivement faible. Je sais pas si si on va avoir l'occasion d'en sortir avant 17h35. Sortir, ça veut dire passer au-dessus des 7240 ou rompre les 7165 points. On a un niveau d'équilibre aussi hein, autour des 7200 points. Comme je vous le disais tout à l'heure, en dessous de 7200 points, on est plutôt un petit peu faible avec une volonté d'aller chercher les 7165 points. Et au-dessus des 7200 points, on est un peu plus costaud avec une volonté par moment, hein, comme on a eu il y a une demi-heure, d'aller chercher les 7240 points. Donc je pense que pour vraiment avoir des variations plus significatives, il faudra attendre la semaine prochaine avec l'inflation mardi aux États-Unis, bien sûr, et puis les rendez-vous des banquiers centraux mercredi et jeudi. Du côté de l'euro-dollar, on a fait quelque chose d'assez intéressant. On a mis en place une structure en fond avec un double appui autour des 1,0660. Là, on est à 1,0760. Donc, on a repris un petit peu de hauteur. Je pense qu'il y a peut-être matière à aller chercher un petit peu plus haut, vers peut-être les 1,08, 1,09. Mais cette structure est plutôt positive, je dirais, à échéance quelques jours, voire quelques semaines. On a aussi les marchés américains. Le Nasdaq, malgré sa petite alerte baissière mercredi, a repris quasiment la moitié du terrain perdu avec la hausse surprise des taux d'intérêt au Canada. Ce qui n'a pas plu, hein, bien sûr, aux valeurs de haute technologie. Mais finalement, il préserve quand même l'essentiel. On est en hausse quand même de 25% depuis le début de l'année, ce qui est pas rien. Et le Dow Jones, lui aussi, s'est remis à décoller un tout petit peu. Il y a une semaine et demie, on était quasiment étale depuis le début de l'année. Là, on est à plus de 2%. On s'est éloigné de la zone de dangerosité des 32 600, 33 000. On est à 33 800 points. Il y a un gros niveau de résistance sur le Dow Jones qu'il faudra vraiment batailler pour le déborder. C'est les 34 400 points. On est à 600 points de ce niveau. On n'est pas non plus très éloigné. Et puis, on a l'or qui reste plutôt ferme, hein, à portée de fusil de ces récent point haut. On est à 1962, on a une centaine de dollars en dessous, mais il y a un bon niveau de résilience autour des 1930 dollars. Donc je pense qu'il faut continuer à faire confiance à l'or à court moyen terme. J'imagine bien qu'on réussisse à repasser au-dessus des 2000 et puis surtout des 2100 dollars pour monter peut-être un petit peu plus haut à échéance moyen terme.
Merci beaucoup pour ce regard graphique porté sur la séance de cette fin de semaine. Stéphane Sauduteil et Technibourse qui nous accompagnaient ce matin. Le CAC, -003, 7219 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Et l'on retrouve Mara Dobrescu qui nous attend chez Morningstar. Bonjour Mara.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. On parle de la crise du plafond de la dette américaine et de ses implications pour les investisseurs. D'abord, pourquoi entend-on régulièrement parler de ce plafond du Trésor américain ?
Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce plafond est un montant maximum fixé par la loi qui limite en fait la taille de la dette nationale que le Trésor américain peut contracter. Et le problème, c'est que ce plafond est fixé en chiffres nominaux. Donc, si on regarde à fin mai, il était à 31,4 000 milliards de dollars. Et donc, compte tenu du fait que le gouvernement américain enregistre généralement des déficits budgétaires chaque année, donc il dépense plus qu'il ne perçoit en recettes fiscales, eh ben, ça veut dire que ce plafond de la dette doit être relevé périodiquement et révisé au fur et à mesure que l'économie se développe, sans quoi l'État américain ne pourrait pas continuer à emprunter. Alors le plafond lui-même a été augmenté près de 90 fois depuis 1959 et il a été augmenté de façon assez régulière, en fait, quelle que soit la couleur politique de l'administration démocrate ou républicaine.
Qu'est-ce qui se passe une fois le plafond atteint ?
Alors lorsque le montant de la dette s'approche de la limite d'endettement, on entre dans une situation vraiment d'urgence. Dans un premier temps, le Trésor américain dispose de certaines mesures extraordinaires pour maintenir temporairement l'emprunt sous ce plafond, principalement en arrêtant les investissements dans certains fonds publics. Et ça laisse le temps au Congrès de se mettre d'accord sur un nouveau plafond de dette plus élevé. Mais le risque, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas d'accord ou pas d'accord suffisamment rapide qui permette d'inscrire un nouveau plafond dans la loi, et ce qui risquerait donc de mettre les États-Unis dans ce qu'on appelle un défaut technique de paiement. Alors, pour l'instant, à chaque crise, dont le plus récent épisode est arrivé fin mai de cette année, et ben à chaque fois, on a réussi finalement à décrocher un accord in extremis, mais ça a été précédé par beaucoup de nervosité, beaucoup de volatilité dans les marchés, avec l'idée que les négociations pourraient cette fois-ci échouer.
Et est-ce que les investisseurs, eux, doivent s'inquiéter ?
Alors, si on est investi en dette du Trésor américain, ce qu'il faut juste avoir à l'esprit, c'est que ces psychodrames, pour les appeler ainsi, autour du plafond de la dette vont continuer à intervenir ponctuellement, probablement toutes les quelques années, et vont agiter les marchés à court terme. Mais si on a un horizon d'investissement long, si on a une allocation stratégique à la dette américaine, ben, vaut mieux vraiment rester concentré sur ces objectifs de long terme. Si on regarde un autre événement que les marchés avaient redouté comme un cataclysme sur la dette US, lorsque la note de crédit des États-Unis avait été dégradée de AAA à AA en 2011, eh bien, on s'attendait à un tsunami sur les marchés. Ça n'a finalement pas eu un impact significatif à long terme sur les rendements obligataires. Et de manière générale, l'investisseur doit plutôt se concentrer sur ce qu'il ou elle peut contrôler, puisqu'on n'a aucun contrôle sur la politique, sur les intrigues parlementaires, les décisions fiscales des gouvernements. Mais là, ce qu'on peut contrôler, c'est d'une part fixer des objectifs d'allocation de portefeuille et les maintenir à long terme, contrôler ses émotions, éviter le market timing, éviter d'être tenté de faire des réajustements tactiques, et puis finalement choisir les bons supports, notamment les moins chers, pour maximiser ses chances à long terme. Et clairement, sur les obligations d'État américaines, il y a plusieurs ETF et fonds indiciels qui offrent une efficience efficiente à très bas coût. On a par exemple un iShares US Treasury Bond, un Vanguard US Treasury Bond et un Xtrackers US Treasuries. Ce sont des fonds très bon marché qui facturent entre 7 points de base et 10 points de base de frais de gestion par an et qui ont des notes de médaillisme dans les stars allant de silver à gold.
Merci beaucoup Mara Dobrescu depuis Morningstar pour revenir sur ces questions autour du plafond de la dette américaine.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et en cette fin de semaine, c'est Ludovic Usieux pour Artemis Courtage qui est en plateau pour répondre à toutes vos questions. Bonjour Ludovic.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être là. C'est vrai qu'on a consacré une large part de notre antenne ce matin aux questions immobilières et ça va encore être le cas pour ces réponses aux questions. On rappelle d'abord l'adresse mail bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. C'est là que vous pouvez nous poser vos questions. On commence avec celle de Jean-Pierre. Pouvez-vous expliquer pourquoi est-ce si difficile d'emprunter aujourd'hui, alors que lui, Jean-Pierre, se souvient de taux beaucoup plus élevés il y a 15 ans?
Pour plusieurs raisons, il y a une barrière à l'accès au crédit aujourd'hui qui est compliquée. Il y a 15 ans, tous les guichets bancaires, toutes les banques prêtaient à des taux plus importants, mais à une autre période. Aujourd'hui, les barrières, elles sont à la fois réglementaires. On doit s'astreindre à avoir un taux d'endettement maximum de 35%. Et puis, depuis un peu plus d'un an maintenant, il y a le taux d'usure qui nous pourrit un peu la vie en tant que professionnels du crédit, que ce soit les banquiers ou les courtiers qui ont appris à vivre avec ce taux d'usure. Mais c'est un peu plus compliqué. Et puis, la dernière raison qui est pas la moins évidente, c'est qu'aujourd'hui, les banques empruntent sur les marchés à des taux importants, que les marges qu'elles ont pour prêter cet argent à des emprunteurs particuliers en bout de chaîne, vous et moi, ces marges sont faibles ou nulles, et que quand une banque ne gagne pas d'argent, elle a moins envie de prêter.
C'est sûr.
C'est tout simple.
Enfin, il y a 15 ans ou même plus, on avait parfois des taux à deux chiffres.
Oui, mais les banques empruntaient et avaient des marges qui étaient plus confortables.
Il faut attendre qu'elles restent leurs marges, quoi.
Je pense très sincèrement, on en fait beaucoup et c'est normal parce que c'est des barrières supplémentaires pour accéder au crédit. On en fait beaucoup avec ces contraintes réglementaires. Le vrai nœud du problème, c'est que les banques ont pas assez de marge pour prêter et qu'elles ont moins envie de prêter qu'il y a un an et demi ou deux ans.
Question de Marion. Elle est dans une démarche pour acheter son appartement et elle se demande si c'est le bon moment pour emprunter ou s'il vaut mieux attendre. Et elle veut savoir aussi si elle doit mettre toute son épargne dans l'apport ou en garder pour d'autres frais annexes. Elle pense par exemple aux travaux ou les placer à la banque. Comment on répartit son PQ?
C'est une bonne question. Est-ce que c'est le bon moment pour emprunter? Je pense que c'est un meilleur moment pour emprunter aujourd'hui, en juin 2023, que dans trois mois, quand on va rentrer en septembre. On est sur une pente haussière depuis un peu plus d'une année. On n'a pas arrêté de dire que les taux avaient triplé, et c'est le cas, et ça continue à augmenter. Donc, emprunter aujourd'hui, ce sera moins cher que dans trois mois. Ça, je vous le confirme. Après, comment on répartit son éventuel apport? Aujourd'hui, ce que les banques regardent, c'est d'avoir le moins de risque possible sur un dossier. C'est-à-dire avoir une marge hypothécaire confortable, c'est-à-dire de l'apport sur le dossier, financé au minimum les frais et puis un morceau de l'appartement ou de la maison qu'on envisage d'acquérir. Ce qui est pas mal, c'est quand il reste un peu d'épargne, donc un apport confortable et de l'épargne résiduelle, c'est-à-dire de l'épargne qui va pouvoir être placée sur les livres de la banque. Collecter un peu d'épargne ou un peu de dépôt ne déplaira pas à la banque, loin de là.
Pour dire que, pour montrer d'abord qu'on est un peu fourmi, et ensuite pour éventuellement couvrir quelques aléas de la vie.
Exactement. On se dit qu'en cas de coup dur ou en cas de défaillance, il y a un petit matelas et on pourra faire face au paiement des mensualités. Ouais.
On dit quoi ? Un an de remboursement, en gros ? En épargne résiduelle ?
Ouais. C'est pas mal, c'est très confortable. À partir de 6 mois, ça se regarde, mais c'est vrai que quand on a un an devant soi, c'est très sympa pour la banque d'imaginer que le risque, il est un peu plus faible.
Question de Franck, 48 ans, propriétaire de sa résidence en Île-de-France. Il est muté à Nantes et il se retrouve donc dans une double situation de vendeur et d'acheteur. Et il se demande comment gérer la transition du prêt en cours et son futur crédit.
Alors, aujourd'hui, quand on a le choix, quand on n'est pas imposé par le timing, le plus simple et le plus sécurisé pour un emprunteur, c'est de vendre avant d'acheter. D'éviter, si possible, et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, d'éviter la mise en place de ce qu'on appelle un crédit relais, c'est-à-dire une avance sur la vente future de son bien immobilier actuel, en attendant la revente de ce bien. Si on peut éviter la mise en place du crédit relais, on vivra une période d'achat qui sera moins stressante, moins oppressante que si on met en place un crédit relais. Et puis, ça augmentera aussi les chances, tout simplement, d'obtenir son propre crédit pour acheter sa nouvelle maison ou son nouvel appartement.
Donc, l'idéal, essayer de vendre.
Si c'est possible, vendre et puis acheter, dans l'ordre. Si c'est pas possible, comme je pense que c'est le cas de Franck aujourd'hui, puisqu'il est muté, on met en place un crédit relais. Il y a des formules qui existent, qui ont été spécialement inventé et marketé par les banques. On parle de crédit relais rachat, ça veut dire que la banque qui va financer votre nouvel appartement, votre nouvelle maison, rachète l'ancienne encours de crédit, l'ancien capital restant dû, pour avoir une mensualité unique et pas le cumul des deux mensualités, et pour que celle-ci soit plus basse que si vous aviez dû payer les deux mensualités et avoir un taux d'endettement pendant cette période de relais qui soit supportable. Donc des solutions existent, mais prudence, on préfère vendre avant d'acheter.
Et ces ventes signature chez le notaire ou si on a déjà un compromis, que les délais ont commencé à être purgés, etc., ça compte aussi ?
C'est bien, c'est mieux, mais quand on est dans une position d'acheteur et de vendeur, l'aléa qu'on subit en tant qu'acquéreur pour trouver un crédit, l'acquéreur de votre bien, ça va être le même aléa. Donc, on préfère que ce soit effectivement vendu puis acheté. Et ça nécessite un peu de logistique, un garde-meuble ou une famille aimante et bien pensante qui vous accueille pendant cette période transitoire.
Allez, on passe à la question de Victor, qui a un banquier qui lui demande un apport personnel plus important que ça n'était prévu. Et lui n'a pas la somme dans son intégralité. Et il se demande quelles sont les solutions qu'il pourrait étudier. Il nous parle pêle-mêle de donations, de prêts de proches ou de son entreprise.
Comment on trouve de l'argent ? Aujourd'hui, le plus simple, le plus direct, et ce qui n'obère pas votre capacité d'emprunt, c'est effectivement la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire solliciter ses proches, ses parents, ses grands-parents, sa famille, ses oncles, ses tantes, dans le cadre d'une donation qui doit faire l'objet d'un acte notarié et d'un dépôt de formulaire CERFA, pour effectivement disposer d'un apport suffisant et d'un taux d'endettement pas trop élevé. Le prêt familial, c'est possible, mais je rappelle que quand il y a le mot prêt,
c'est un prêt.
C'est une charge, exactement. Quand on essaye de nous faire croire au gouvernement que le prêt à taux zéro, c'est un apport, non, c'est un prêt, il faut le rembourser tous les mois, il ne produit pas d'intérêt, mais c'est un prêt. C'est la même chose pour les prêts familiaux. Un prêt familial, ça peut effectivement, vous pouvez avoir des conditions plus intéressantes, mais cette charge de crédit, même si c'est étalé sur une longue période, rentrera dans vos charges et fera partie du calcul de votre taux d'endettement.
Et on rappelle qu'un prêt familial peut se consentir à taux zéro, ça c'est pas illégal. En revanche, c'est un prêt, donc il doit être remboursé, sinon il sera requalifié par l'administration fiscale. Donc effectivement, ça veut dire que chaque mois, ou in fine, mais enfin bon bref, on devra rembourser. Et son entreprise, on peut la démarcher ?
on peut, c'est un peu compliqué les entrepreneurs, enfin les entreprises, peu importe la taille des entreprises, n'adorent pas cette solution. Je pense que c'est une voie en revanche à explorer. Mais c'est un peu compliqué, donc on n'en voit pas souvent. Ce dont on bénéficie, ce dont les emprunteurs bénéficient au moment d'arriver, c'est un apport qui a été constitué par l'épargne de l'entreprise, c'est-à-dire le versement sur un PE, des fruits des bénéfices et de la répartition des bénéfices par l'entreprise vers les salariés. Des prêts entreprises consentis à des particuliers pour acheter leur habitation, c'est assez rare.
Question de Julie. Suite aux dernières mesures, elle a compris que le taux d'usure sera actualisé chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Et elle se demande si c'est une solution plus simple pour obtenir son crédit.
Alors, c'est la seule bonne nouvelle qui concernait le crédit dans le CNR logement de ce début de semaine. Effectivement, c'est une mesure dérogatoire. On rappelle que normalement, le taux d'usure est publié tous les trimestres. Depuis février et pour 6 mois, il l'était mensuellement. C'est prorogé jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi c'est une bonne chose? Alors, la formule de calcul n'a pas changé. Hein, c'est-à-dire que c'est toujours le problème vient toujours de la formule de calcul. Mais en revanche,
pas changé.
Elle n'a pas changé. La périodicité, elle est mensuelle jusqu'à la fin de l'année. Ça permet au minimum de fluidifier un peu le marché et d'être dans une période d'attente un peu moins longue quand on tape l'usure, quand on est au-dessus de ce taux d'usure, parce qu'on a soit un taux de crédit trop élevé parce qu'on est un jeune primo-accédant, soit parce qu'on est un peu plus âgé et qu'on a là un taux d'assurance trop élevé. Ça permet de n'attendre que 10 jours ou 15 jours avant la publication du nouveau taux d'usure et de faire passer son dossier, plutôt que de devoir attendre un mois et demi ou deux, comme c'était le cas avant. Donc, je vois ça d'un très bon œil. C'est très bien que ça soit prorogé jusqu'à la fin de l'année. C'est pas une solution miraculeuse et c'est en tout cas pas la solution à tous les problèmes. Loin de là.
Quelle peut être la solution, du coup, de changer cette histoire du taux d'usure? On rappelle qu'au départ, même si là, ça gêne aux entournures, mais c'est une mesure de protection du consommateur.
Mais on y est très favorable. On n'a jamais demandé à ce qu'elle soit supprimée. On demande juste à ce que ce calcul, qui est un peu anachronique, soit revu, parce qu'il y a à l'intérieur du taux d'usure des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui sont notamment l'assurance qui représente un poids tout différent selon qu'on a 30 ans ou 50 ans et qui vous empêche d'emprunter alors que vous êtes parfaitement solvable. C'est pas très logique. Il faudrait revoir ça un peu en profondeur. Mais en attendant de revoir ça en profondeur, cette mesure d'urgence, c'est bienvenue.
Allez, on passe à la question d'Anita qui vient d'apprendre que le gouvernement prolongeait le PTZ et elle se demande si elle peut toujours l'utiliser pour une construction neuve.
Alors, effectivement, le PTZ a été prorogé jusqu'en 2027. À une nuance près, c'est que le PTZ, on pouvait le destiner soit à une construction neuve dans de l'habitat collectif, un appartement qu'on réserve dans un programme de promoteur, ce qu'on appelle une VFA. Voilà,
on signe un futur d'achèvement.
Exactement, on signe un contrat de réservation et puis on trouve un financement et 2 ans après, son appartement est livré et construit. Ça, c'est toujours possible dans la nouvelle mouture et dans la prolongation du PTZ. Ce qui n'est plus possible, c'est de financer avec un PTZ une maison individuelle, c'est-à-dire que l'habitat individuel neuf en construction n'est plus éligible au PTZ et c'est une nouveauté, une mauvaise nouveauté, ouais. Issue de ce CNR logement.
On vous renvoie à ce sujet, à l'édition spéciale qu'on vous a proposée entre 10h et 11h avec Marie-Cœur de Roy, où on a évoqué et les questions de neuf et les questions d'anciens. Édition spéciale que vous pourrez trouver, bien sûr, dans nos replays. Et question de Barbara, qui divorce et qui souhaite racheter les parts du logement à son ex-mari. Et elle se demande à quelles conditions elle peut les acquérir.
Alors dans ces cas, c'est un peu technique. Dans ces cas-là, on parle d'un rachat de soulte, c'est-à-dire que quand il y a séparation, divorce, que le bien a été acheté en indivision, donc avec des parts réparties dans le cas présent entre mari et femme, celui qui veut conserver la propriété et acheter donc les parts à l'autre doit procéder à un rachat de soulte, c'est-à-dire qu'il doit d'abord racheter le crédit immobilier en cours pour lui-même, alors qu'il était au départ consenti pour 2 emprunteurs. Et puis, il faut racheter la soulte, c'est-à-dire la différence entre la valeur du bien au moment de la revente, le capital restant dû, et la valeur du bien au moment où on l'a acheté, puisque s'il y a une éventuelle plus-value, il faut que celui qui sort de l'indivision
profite aussi.
Puisse en profiter au moment de la valorisation du bien, au moment de la séparation.
Qui fait ce calcul ?
C'est le notaire. C'est le notaire, tout à fait. Voilà.
Qui n'a pas à s'écharper entre mari et femme
Non, il faut laisser ça entre les mains des conseils, des avocats, et au milieu de tout ça, les notaires, qui dresseront un état, donneront une valorisation et calculeront le montant de la soulte et le prêt à racheter.
Elle est question de Fanny, qui voit de plus en plus de biens à vendre classés F ou G, et elle flaire la bonne affaire. Elle voudrait savoir si vous pensez qu'elle trouvera un financement bancaire.
C'est une bonne question. Le monde se divise un peu en deux catégories en ce moment sur les
passoires.
Les passoires énergétiques. Alors elles sont moyennement passoires celles-là. Enfin, elles laissent passer pas mal de trucs, mais c'est pas les pires classements. Ça dépend de la destination du bien. Si c'est un bien qu'elle destine à habiter, à y faire des travaux au moment de l'entrée dans les lieux et qu'elle peut produire des devis d'artisans. Elle pourra trouver assez facilement une banque. Si en revanche ce bien est destiné à la location, on sait toutes les barrières qu'il y a aujourd'hui de pouvoir mettre en location un bien dont le DPE, dont le diagnostic est mauvais, ce sera plus compliqué et il faudra montrer patte blanche avec effectivement une ligne de travaux à l'intérieur du financement de l'investissement locatif destiné à mettre en œuvre les travaux immédiatement pour que le bien soit louable et qu'on puisse avoir des revenus fonciers en face de son emprunt immobilier.
Eh bien, il nous reste une question de Benoît. Que peut-on attendre de la réunion du HCSF, le Haut Conseil pour la stabilité financière, de mardi prochain ? Est-ce que les règles imposées pourraient être assouplies ?
Je sais qu'on manque un peu de temps, j'en attends rien ou pas grand-chose, très sincèrement. D'abord parce qu'il y a eu le verbatim de la Banque de France qui a donné...
Mais le ministre, de son côté, qui est partie prenante aussi, semble plus volontaire.
Ok. On verra ça mardi. Je pense qu'on peut attendre un éventuel assouplissement de la poche de flexibilité des banques, c'est-à-dire redonner un peu de pouvoir aux banques dans la décision d'octroyer des crédits ou pas. C'est-à-dire, le principe, je pense, de 35% va être maintenu. Il y aura peut-être un peu plus de flexibilité dans la poche dérogatoire de 20% qui est accordée aux banques, de pouvoir distribuer du crédit un peu plus facilement, notamment aux investisseurs locatifs qui sont bien bloqués aujourd'hui, et de regarder de scruter avec un peu plus d'intelligence le reste à vivre, parce que cette norme de 35%, elle est simple, mais elle est censée régler tous les cas d'emprunteurs.
C'est pas pareil quand on gagne 2000 euros par mois ou 20 000 euros par mois.
C'est un peu différent. Le reste à vivre est un peu différent et pourtant on est enfermé dans le même taux d'endettement. Exactement.
À suivre donc la marge des banques à la sortie de ce HCSF. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Ludovic Usieux pour Artemis Courtage qui répondait ce matin à toutes vos questions. Dans un instant, 90 minutes business, Sandra Gandoin.
Bonjour Cédric.
Bonjour Sandra.
On va continuer l'édition spéciale.
Ouais, vous allez encore parler IMO.
Alors exactement, sur le CNR Logement. Toutes vos questions, vous nous les posez à cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. On y répond pendant toute une demi-heure avec nos deux experts Jean-Louis Delaureau et Christophe Duprat. Et puis dans la partie actu, dans quelques minutes, on va revenir sur le dossier casino avec Pauline Tadevin. On va parler du glamping. Vous savez ce que c'est ?
Non.
Bah, c'est du camping de glamour, voilà, de luxe, c'est
éco-responsable.
Bah oui, c'est vendredi, on s'évade. Ce sera notre thème et donc l'édition spéciale, effectivement, sur cette dernière demi-heure. Cédric.
C'est le camping sans moustiques.
Visiblement.
Allez, c'est à suivre dans un instant. Vous saurez tout sur le clamping. Et nous, on se retrouve lundi matin, avec ou sans clamping, pour une nouvelle session de BFM Patrimoine. Très bon week-end.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.